Afrique.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
Au Sénégal, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a estimé que le décès d'une femme enceinte dans un hôpital public, qui a provoqué l'indignation, aurait pu être évité. Selon les médias sénégalais, Astou Sokna, trentenaire enceinte de 9 mois, est décédée le 7 avril à l'hôpital de Louga, après avoir attendu dans de grandes souffrances, pendant une vingtaine d'heures, la césarienne qu'elle réclamait. Le personnel aurait refusé sa demande et menacé de la chasser si elle insistait. 5 jours plus tard, le président Macky Sall a publié un message de condoléances et donné pour instruction de déterminer les responsabilités. Le directeur de l'hôpital a été limogé et le personnel de garde en charge de la patiente a été suspendu. En Égypte, la justice a commué à 3 ans la peine de prison de l'influenceuse Anine Osam. En juin 2021, l'étudiante avait été condamnée à 10 ans de prison pour traite d'êtres humains, entre autres chefs d'accusation. Ayant déjà passé 21 mois derrière les barreaux, elle pourrait sortir cet été grâce au système des remises de peine. Elle devra toutefois s'acquitter d'une amende d'environ 11 000 dollars. Anine avait été soupçonnée de proxénétisme pour une vidéo adressée à plus d'un million d'abonnés. La justice criminalise ce que tout influenceur fait sur TikTok, à savoir inviter d'autres à travailler avec eux pour monétiser leur activité, a estimé l'avocate Maïel Sadani. En 2020, une autre influenceuse, Mawada Aladam, avait été condamnée à 6 ans de prison et une douzaine d'entre elles ont été arrêtées depuis pour atteinte aux bonnes mœurs. En Indonésie, le Parlement a voté une loi contre les violences sexuelles, ouvrant la voie à un meilleur accès à la justice pour les victimes. Depuis le 12 avril, les agressions sexuelles dans le mariage et hors mariage sont punissables jusqu'à 12 ans de prison et les mariages forcés jusqu'à 9 ans de prison. La diffusion de contenu sexuel sans l'accord des victimes peut valoir jusqu'à 4 ans de prison. La Commission sur la violence contre les femmes a rapporté plus de 338 000 cas en 2021, soit une hausse de 50% par rapport à l'année précédente. Selon un rapport publié par l'ONG brésilienne Forum de sécurité publique, le nombre de viols a augmenté de 4% en 2021 par rapport à l'année précédente au Brésil, avec plus de 56 000 cas enregistrés, soit un viol toutes les 10 minutes. Le rapport est basé sur les seules plaintes recueillies par la police. Le pays a enregistré 1319 fémicides l'an dernier, soit près de 4 par jour, une légère baisse de 2,7% par rapport à 2020. Les données montrent toutefois que le nombre de fémicides a particulièrement augmenté de février à mai 2020, au plus fort des mesures de restriction liées à la pandémie de Covid-19.
Parole de femme.
Sur les 115 juges ayant siégé à la Cour suprême des États-Unis depuis plus de deux siècles, il n'y a eu que 6 femmes, 3 Africains-Américains, dont Clarence Thomas, et un seul juge hispanique, Sonia Sotomayor, tous deux y siégeant encore actuellement. Grâce à sa confirmation par le Sénat le 7 avril 2022, la magistrate progressiste Ketanji Brown Jackson est en effet devenue le 3e juge africain-américain et la 6e femme à la Cour suprême depuis sa création. 4 femmes, dont 3 progressistes, siègent actuellement au sein du collège de 9 juges. Écoutons l'analyse de Marilyn Sefocle, professeure à l'Université Howard.
C'est extrêmement important pour les États-Unis parce que, comme vous le savez, la plupart des juges de la Cour suprême, dans toute l'histoire de la Cour suprême des États-Unis, ont la plupart du temps été des hommes blancs. Et là, qu'il y ait une femme noire, cela change la donne. Pourquoi ? Parce que cela donne à la population le sentiment que la justice n'est pas rendue simplement par un groupe spécifique de personnes, mais de différents groupes ethniques, de différents sont à même de juger des cas importants pour la nation. Si vous voulez, cela amplifie la démocratie américaine.
Elles sont cependant tout de même, on va dire, 4 femmes donc sur 9 juges dans ce collège et 3 progressistes avec Madame Jackson. Sachant que les progressistes sont encore minoritaires, mais selon vous, quel poids pourrait-elle apporter, notamment sur les dossiers brûlants, particulièrement le port des armes ou l'avortement ?
Alors là, évidemment, les progressistes souhaitent qu'elle pèse, si vous voulez, dans la Cour suprême. Et donc, c'est l'avenir seulement qui pourra nous le dire. On pourra juger des jugements qu'elle ne prononce pas au cas par cas.
Vous avez parlé tout à l'heure de la diversité ethnique, mais l'on sait que jusqu'ici, il n'y a eu qu'une juge hispanique qui siège encore actuellement à la Cour, Sonia Sotomayor. Alors comment expliquer cela, selon vous, par rapport au fait qu'il y a plus de 60 millions d'Hispaniques aux États-Unis ?
C'est dû à cette espèce d'enfermement, peut-être au niveau du SEDA, ce manque d'ouverture qui a régné jusqu'à maintenant. La Cour suprême a pris beaucoup de temps, si vous voulez, à s'ouvrir vers les autres. Il y a d'autres parties du gouvernement américain qui se sont ouverts beaucoup plus tôt, comme par exemple l'armée. L'armée américaine, dès les années 50, avait déjà fait ce pas à ouvrir ses portes aux minorités. Et là, c'était le dernier, peut-être l'un des derniers bastions, justement, de cette vision, si vous voulez, un peu monochrome des États-Unis.
On a 2 juges africains-américains donc qui siègent à la Cour suprême des États-Unis. Ça nous rappelle que le premier était confirmé en 1967, Thurgood Marshall. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire finalement, cette évolution ?
Alors, cela montre aussi que l'évolution n'est pas aussi rapide qu'on peut la souhaiter. Elle est parfois même assez lente. Comme vous le dites, il y a une espèce de grand hiatus entre Thurgood Marshall, les années où il a été nommé, c'était les années de la lutte pour les droits civiques. Cela nous montre que l'évolution, elle existe, certes, mais elle est très lente.
Docteur Marilyn Sefocle, les professeurs à l'Université Howard à Washington. Au Bénin, malgré la loi de 2019 visant à faciliter l'accès des femmes aux postes de responsabilité, elles peinent encore à trouver leur place dans le leadership politique, selon notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé.
Les femmes béninoises ont encore du mal à trouver la voie qui mène vers les postes décisionnels. Sur le plan politique, le chemin paraît encore long, même si par l'entremise d'une réforme électorale, la chance leur est donnée de se positionner. Judith Glidia est membre du Bloc républicain, l'un des partis proches du pouvoir.
C'est un geste très fort et c'est un grand pas.
C'est le début d'une révolution, c'est la concrétisation déjà d'une révolution. Nous remercions vraiment le chef de l'État. C'est un homme de parole, nous avons confiance en lui. Nous savons qu'on va y arriver et que la femme sera célébrée comme cela se doit.
Une chose est de voter une loi qui donne une place prépondérante à la femme au sein des partis politiques et l'autre chose est qu'elles arrivent à dépasser les pesanteurs socioculturelles pour s'impliquer réellement. Pour Marielle Degoué, politique et membre de la société civile, il faut que les femmes prennent conscience du rôle qui leur revient dans la gestion de la cité.
Pour nous, l'absence des femmes aux instances de décision, c'est beaucoup plus le manque d'implication dans les initiatives. Lorsqu'il est question de politique, elles se préfèrent toujours en dessous. Il faut que les hommes soient en avant et puis elles derrière. C'est normal. Lorsque l'on sait aussi que les réunions politiques sont des réunions nocturnes, les femmes devant être à la maison. Mais nous faisons partie de ces personnes qui continuent de croire que ces petites raisons-là ne devraient pas être des motifs de retrait des femmes au niveau des instances parce que la compétence, il y en a au sein des femmes.
Dans le milieu professionnel, on est bien loin de la mobilisation escomptée. Les hommes ont encore du mal à accepter et recevoir des ordres venant d'une femme. Sénaléa Glago est rédactrice en chef dans une radio privée de la place. Pour elle, le combat est quotidien.
Et ce n'est pas facile déjà pour les hommes de se faire accepter par toute une rédaction composée d'hommes et de femmes. Et ça l'est encore moins pour des femmes, mais on gère que les hommes grand âge déjà ont du mal à accepter des femmes journalistes, des femmes dans le métier, parce qu'on s'est fait des stéréotypes, on s'est fait des clichés et on s'est dit qu'une femme dans ce monde-là, c'est une femme débauchée.
Pour Michel Zocli, ingénieur agronome de profession, le Bénin est une société traditionnelle et la place de la femme se trouve à la maison auprès des enfants qu'elle doit éduquer.
Très souvent, elles n'ont pas le temps, elles ne sont pas à la maison, elles désertent le foyer. Or, en réalité, la femme devait rester beaucoup plus à la maison, s'occuper des enfants. Elles sont beaucoup plus tentées par les avances pour ce qui concerne leur métier.
Pourtant, selon le sociologue Moulero Amouzouvi, avec les défis du monde actuel, les gouvernants ont le devoir de donner aux femmes leur chance de prouver ce dont elles sont capables.
Responsabiliser la femme aujourd'hui est le seul moyen pour elle de s'imposer à l'homme. C'est un problème purement humain, c'est un problème purement social et il faut responsabiliser la femme.
Cela fait des décennies qu'on se bat au Bénin pour que les femmes puissent avoir plus de chances pour accéder au poste de responsabilité. Des initiatives ont été portées, mais elles se sont heurtées aux pesanteurs socioculturelles qui parviennent encore aujourd'hui à avoir le dernier mot. De Cotonou, Jeanette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
Comme nous venons de l'entendre pour le Bénin, la question se pose aussi notamment au Nigeria, où malgré certains efforts et l'adoption de quotas, la représentation des femmes en politique est loin d'être satisfaisante, rapporte notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
La politique nationale du Nigeria sur l'égalité des sexes stipule que 35% des postes dans la fonction publique devraient être réservés aux femmes. Les groupes de femmes locaux n'ont cessé de prôner une plus grande représentation des femmes dans les postes publics et de nomination.
It was like a shocking news
because c'était un choc pour moi lorsque j'ai reçu la nouvelle. Parce que nous avions pensé que cela n'arriverait jamais, ou encore moins, avoir un verdict en notre faveur dans cette affaire. Mais merci à Dieu pour son aide. Tout s'est bien passé comme on le souhaitait.
Les femmes nigériennes ont manifesté pendant plusieurs jours devant le Parlement à Abuja suite à la décision des deux chambres du Parlement de voter contre l'adoption de 5 projets de loi en faveur de l'égalité des sexes. La Haute Cour fédérale d'Abuja a donc décidé de la mise en application immédiate de la politique nationale sur l'égalité des sexes.
Il n'y aura plus de discrimination. La représentation des hommes ne doit plus être moins de 35% ainsi que celle de femmes. C'est désormais différent de ce qu'on a vécu depuis des années où vous aviez, par exemple, dans un conseil d'administration, une seule femme sur 12 membres, tous hommes. Ou encore dans les nominations aux postes ministériels au sein du gouvernement, il n'y a que des hommes.
Les femmes et les filles représentent près de la moitié de la population totale du Nigeria, mais sont largement sous-représentées sur la scène politique nationale.
Nous avions mené un combat pour l'adoption du projet de loi sur l'égalité entre les sexes. Nous avions présenté 5 projets de loi, mais l'Assemblée nationale d'abord a rejeté tous les projets de loi et le Sénat aussi avait ses propres réserves, provoquant ainsi la colère pour quelque chose qu'on croyait être simple.
Malgré la politique nationale sur l'égalité des sexes exigeant que 35% des postes publics soient attribués à des femmes, la représentation des femmes au Parlement fédéral, notamment le Sénat avec 109 membres et la Chambre des représentants avec 360 membres, seuls 29% des femmes, soit 6% du total. Le sujet reviendra devant les députés et sénateurs nigériens quand ils voteront à nouveau sur 3 des 5 projets de loi sur l'égalité des sexes rejetés. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Le monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
À Paris, une messe féminine a été organisée dans une chapelle privée début avril par un groupe paroissial favorable à une meilleure inclusion des femmes dans l'Église catholique. Le groupe Féminisme en Église a souhaité donner plus de visibilité aux femmes dans la liturgie en organisant cette messe où les femmes ont pu célébrer Dieu autour de l'autel et au service de la parole. L'ensemble des lectures a été fait par des femmes et un commentaire de l'évangile a été dit par une théologienne. Cette initiative symbolique a été désapprouvée par le diocèse de la capitale française.
Si jeunesse pouvait.
Au Maroc, le mariage des mineurs connaît une ampleur inquiétante. Malgré les réformes, plus de 13 000 dérogations ont été délivrées pour marier des mineurs en 2020 sur près de 20 000 demandes. Les détails avec Nani Talani.
Plusieurs victimes de ces mariages précoces affirment avoir vécu l'enfer à cause des violences qu'elles ont dû endurer. Certaines se plaignent d'avoir été mariées à des hommes qui ont l'âge de leur père. Différentes raisons sont à l'origine de ce phénomène, comme l'explique Naja Ikish, présidente de la Fondation Ito, qui lutte contre les mariages des mineurs.
Si le mariage des mineurs dans le monde rural est causé par la non-scolarisation des filles, la pauvreté, la marginalisation, l'absence d'infrastructures, entre autres, dans le milieu urbain, il est causé par des idées conservatrices qui sont nées dans certains quartiers de villes comme Casablanca, Rabat, Fès ou Marrakech, et qui disent que la place de la jeune fille est chez son mari.
La tragédie des mariages des mineurs prend une grande ampleur dans les zones reculées, enclavées et marginalisées, comme celle de Tafraoutène. C'est ce qui a poussé la Fondation Ito à organiser une caravane de sensibilisation annuelle dans la région. L'organisation œuvre depuis plus de 10 ans contre le mariage des adolescentes.
Cette visite nous permet de dresser une longue liste des villages et communes marginalisées qui ont besoin d'un grand travail. Ensuite, nous organiserons une deuxième visite où nous nommerons des coordinateurs régionaux et nous élaborerons la liste finale des endroits où notre caravane passera.
Naja Ikish, 63 ans, sillonne depuis la mi-février la région berbérophone de Sousmassa à la rencontre des villageois et de la société civile locale. Elle prépare la prochaine caravane prévue le 15 juillet, un convoi de bénévoles qui sensibilise la population aux problèmes que posent les unions forcées, juridiques, médicales, etc., organisant des débats et distribuant des dons aux plus démunis. Elle reconnaît que c'est un travail délicat car le sujet est tabou.
La première phase de notre visite est la plus difficile dans la préparation de la caravane, car nous ne savons pas où elle sera organisée. C'est pour cela que nous cherchons des lieux reculés et marginalisés qui ont besoin d'un plaidoyer pour un développement, notamment au niveau de la santé, de l'éducation et de l'autonomie financière des femmes, surtout en les aidant à créer des associations pour les émanciper. C'est la première étape pour devenir financièrement indépendante afin de pouvoir défendre les droits de leurs filles à s'instruire et d'interdire le mariage des mineurs.
Le fléau du mariage des mineurs encourage l'analphabétisme et les divorces. Ces unions précoces empêchent les filles de poursuivre leurs études. Dans de nombreux cas, les mariages précoces finissent par se disloquer, faisant grimper le taux de divorce. Dans la région de Sousmassa, plus de 44% des femmes sont analphabètes, selon les dernières statistiques officielles.
Burkina Faso, une initiative d'artistes lutte contre la drogue depuis 15 ans. La caravane Oskimotour Jeune Propre Sans Drogue du musicien Issoufou Sawadogo, lancée début avril, parcourt des établissements scolaires à travers le pays. Un reportage de notre correspondant Lamine Traoré.
Le lancement de la caravane Oskimotour Jeune Propre Sans Drogue se fait ici au lycée Rialé de Tenkodogo dans le centre-est, à près de 200 km de la capitale. Oskimotour est une caravane de sensibilisation sur la drogue en milieu jeune. Le thème de cette 15e édition, zéro consommation de drogue en milieu scolaire. Je m'engage. Des élèves apprécient l'initiative.
Oskimotour, bon, la caravane, bon, je vois que le départ même, ça nous influence. Avec ce qu'ils ont dit, on nous a donné des sujets qui nous touchent beaucoup, qui peuvent nous permettre de changer et sensibiliser nos camarades dans les différentes classes, au niveau social aussi, à la maison. Bon, zéro drogue, je m'engage. Je pense que le message a été bien passé.
Cette caravane a été d'une très grande importance pour les élèves du lycée Rialé. Promouvoir zéro drogue en milieu scolaire est vraiment une très bonne idée parce que, bon, ça nous prépare déjà à combattre déjà les fléaux de la société.
Cette milieu scolaire est beaucoup aujourd'hui infecté par la consommation de la drogue des élèves.
Issoufou Sawadogo, dit Oskimo, est le promoteur de la caravane.
Le choix de Tenkodogo aussi, c'est le centre-est. C'est une zone frontalière au moins trois pays. Tu as le Togo, le Bénin, le Ghana. Donc je me suis dit, et récemment il y a eu une grande saisie, quantité de saisie de drogue ici. Donc on s'est dit, pourquoi pas n'est pas venu sensibiliser cette jeunesse-là, surtout les élèves qui sont des pionniers de demain. Par rapport à l'accompagnement, vous voyez, nous sommes venus ici, ce n'est pas facile, l'année est difficile, le pays est en difficulté. L'État burkinabé doit s'impliquer davantage si on veut gagner d'autres vrais combats, qui est le terrorisme ou l'insécurité. Il faut gagner ce combat de lutte contre la drogue et de la sensibilisation.
Et les services de douane se sont engagés auprès du promoteur. Moulay Jean Dambélé, inspecteur divisionnaire des douanes, directeur régional des douanes du Centre-Est.
Déjà au niveau des frontières et dans la vie de tous les jours, les douaniers luttent au quotidien, non seulement pour les recettes, mais contre tout ce qui est néfaste à notre société. Nous sommes à peu près à 280 000 tonnes pour ce pays et c'est ça ce qu'on a pu. On a pu prendre et ce qu'on n'a pas pu prendre, c'est compliqué. Donc pour les milieux scolaires, il n'y a que de la sensibilisation que la douane puisse faire. La drogue en milieu scolaire est très mauvaise.
La caravane Oskimotour Jeune Propre Sans Drogue qui a commencé début avril va se poursuivre jusqu'à fin mai. Elle va traverser au moins 6 villes et plusieurs établissements scolaires du Burkina. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.